Vivre sa ville. Bonjour Sylvie André, Véronique Villa. Ce matin, un dimanche à Rouen.
Vas-y, on discute. Allez, discutez.
Alors, de quelle couleur est la Seine, à vos yeux? Et est-ce qu'elle a changé de couleur?
Alors, à mes yeux, elle reste comme je suis un enfant des années 70, et donc j'ai vu le fleuve encore industrieux et industriel, elle reste quand même dans mon esprit grise et irisée pétrole. Elle reste encore de cette couleur-là.
Elle n'est pas un peu vert d'eau aussi, non?
J'ai du mal à la voir vert d'eau, moi. Alors, en effet, quand je la regarde véritablement, oui, je la vois évidemment vert d'eau, mais quand je me l'imagine, quand j'essaie de me la représenter, elle reste ce gris irisé. Alors, maintenant, je suis riche d'une centaine de couleurs supplémentaires qui va du jaune soufre au vert lumineux. Voilà, j'en suis heureux.
Alors, pour moi, la Seine, elle est bleue but à gaz. Parce qu'en fait, à côté de nous, il y a Petit Quevilly. Et à Petit Quevilly, il y a des usines qui sont plutôt des usines où on produit du pétrole, où on produit tout ce qui a été produit à AZF est produit ici, en Haute-Normandie, notamment à Rouen et à Petit Quevilly. Et pour moi, c'est prêt à exploser, donc c'est plutôt bleu but à gaz. Voilà.
Est-ce que ça signifie qu'en tant qu'artiste, la couleur verte est votre couleur préférée?
C'est pas vraiment mon préférence, mais ce qui est effrayant, c'est de penser des arbres verts ne seront plus verts. Et par exemple, si vous mangez des tomates rouges, si des tomates rouges deviennent roses, par exemple, jaunes, enfin, il existe, mais quand même, et on a moins d'appétit, tout simplement. Pourquoi j'ai pensé au pigment vert? Parce que dans notre monde, toutes les couleurs ont un rôle. Par exemple, globules rouges aussi. Et d'ailleurs, on dit que le pigment vert des arbres ressemble beaucoup aux globules rouges. Voilà.
Donc c'est vital.
Voilà, tout à fait. C'est le sang de la terre.
Un été à Rouen, aux couleurs de l'impressionnisme, c'est au Musée des Beaux-Arts et de l'art contemporain, ça c'est pour la ville, confronté à la lumière et au paysage d'un autre siècle, le 19e siècle. Ça donne des arbres aux reflets changeants, un jardin suspendu au-dessus du fleuve, des ruches et des cubes plein les trottoirs et un peu partout la question du fleuve et de la couleur de la Seine. Ce matin, Vivre sa ville, une ville pour l'impressionnisme et Rouen impressionné du 3 juillet au 29 août sur les deux rives de la Seine, au micro de Sylvie André et de Véronique Villa, avec Stanny Cambeau, Olivier Darnay et Shikego Hirakawa. Shikego Hirakawa, vous êtes en France depuis 1983, vous êtes plasticienne, attirée par la nature et la présence du vivant dans la ville. Et vous participez donc à l'événement Rouen Impressionné. Je voulais vous demander quelle a été la commande qui vous a été passée.
Ben, en fait, on voulait faire quelque chose de très différent de l'impressionnisme, plutôt parler de notre temps et plutôt parler de nos problèmes, etc. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on m'a choisi. Et parce que je m'attache maintenant à l'environnement qui est devenu notre quotidien, j'ai répondu tout de suite avec le projet que j'ai actuellement.
Et votre projet s'appelle Appel d'air.
Oui, tout à fait. Appel d'air, c'est... ce que j'ai inventé pour Rouen Impressionné. Mais l'origine de ce projet, ça s'appelle Air en péril. Et c'est un projet qui a été inspiré par la dégénérescence de l'écosystème des forêts européennes. Euh, En fait, Appel d'air est composé de deux éléments. Et l'un, c'est arbre à photosynthèse et l'autre, c'est la molécule d'oxygène. Et arbre à photosynthèse a été réalisé pour la première fois à Argenteuil. Disons, c'est une ville très, très liée à l'impressionnisme. Et en plus de ça, ce qui était marrant, c'est que le responsable de cette exposition s'est adressé à moi en disant que Argenteuil est très coloré par l'impressionnisme. Donc on voudrait bien balayer cette image. Et alors, c'est pour ça que j'aimerais bien exposer et votre travail. Alors, j'ai proposé donc le projet que j'avais à la main. Ils ont accepté tout de suite par rapport au concept, parce que le concept était plutôt écologique. Et il fallait penser aux forêts, il fallait penser à notre oxygène, il fallait réduire la pollution, etc., etc. Et par contre, l'arbre réagissait au soleil. Et c'est la même chose que l'impressionniste. Et Monet travaille beaucoup à Rouen avec le cathédrale. Chaque fois qu'il y a un peu de changement de lumière, et il a continué à peindre. Il a changé de toile et puis il a peint.
Il suit la courbe du soleil. Hein.
Voilà, tout à fait. Et en fait, arbre à photosynthèse était ça. Exactement. Et il changeait de couleur par rapport au temps. Et quand il pleut, c'était plutôt pâle, rose. Et quand il fait vraiment beau, ça devient complètement violet. Alors, à Rouen aussi, effectivement, par rapport à la Normandie impressionniste, et Rouen voulait quelque chose de nouveau. Et on s'est adressé à moi. Donc c'était pratiquement la même manière qu'Argenteuil. C'était très intéressant.
Quand on parle d'exposer votre travail, ça n'est pas d'un musée dont on a besoin dans votre cas. Mais on a besoin de la nature, c'est ça ?
Oui.
D'un jardin en ville ou à la sortie de la ville.
Oui. Mais en fait, j'étais un peu, comment dis-je, saturée par rapport à la vie dans la ville, parce que on ne pense qu'à nous, on ne pense qu'à l'humain. Enfin, c'est un peu trop. Il fallait quand même sortir de l'économie et le système de système social, etc., pour penser à quelque chose de global. Finalement, je me suis retrouvée dans la nature. Apparemment, ils ont bien étudié mon travail et ils avaient donc sélectionné un lieu pour moi avant de me contacter. Et c'était donc le jardin des plantes de la ville qui a 8 hectares. Il y a plein de plantes de diverses sortes. C'est tout à fait magnifique. Et en fait, moi, je dois travailler quand même ce qui se passe dans les forêts européennes. Alors, il fallait quand même des végétaux qui sont similaires aux forêts européennes.
Quelles seront les caractéristiques de votre travail dans ce jardin ?
Dans ce jardin, donc, j'ai choisi un endroit, enfin, c'est de l'entrée jusqu'au milieu de l'allée centrale, qui fait à peu près 200 mètres de long. Ça va être dessiné avec des schémas de molécules d'oxygène, et dont on a besoin pour vivre, évidemment. Et puis, j'ai choisi trois arbres de 25 mètres de haut, et ils vont porter des disques en plastique dotés de pigments photochromiques.
Oui.
Et c'est un pigment actif, réactivé par le soleil. Donc quand il fait jour, et le pigment devient violet. Quand il fait nuit, et ça devient blanc. Donc tous les jours, trois arbres deviennent violets le jour et blancs la nuit.
Alors, quels sont ces trois arbres qui vont devenir les acteurs principaux de votre travail ?
Je voulais quand même choisir par rapport à l'installation de molécules d'oxygène et quelques arbres principaux de jardin. Donc, il y a un ginkgo, il y a un chêne, et puis en châtaignier. D'ailleurs, enfin, pourquoi j'ai choisi trois arbres ? Parce que j'ai compté, suivant le plan de jardin, et tous les arbres sont importants. Et il y a 358 arbres, et d'après le rapport de la communauté européenne publié il y a quelques, enfin, une décennie, plus d'un pour cent des forêts européennes meurent de la décoloration des feuillages qui est causée par la pollution atmosphérique de notre société. Voilà, donc par rapport à cet 1%, et j'ai choisi trois arbres sur 358. Et là, dans le jardin des plantes, et j'utilise donc pour ces trois arbres 5000 disques en plastique dotés de pigments photochromiques. Et nous, on travaille avec trois nacelles, tous les jardiniers de Rouen qui vont m'aider. Et quand même, il me faudrait une semaine et demie pour tout cela. Là. C'est une opération quand même assez importante.
D'accord. Et les jardiniers du Jardin des Plantes de Rouen comprennent la pertinence de votre travail, sont vraiment des collaborateurs pour vous ?
Oui, ils étaient très passionnés. Et ce qui était étonnant, c'est que le responsable du travail, il a dit que depuis 20 ans, il n'y avait aucun projet similaire à notre projet.
Rien donc, de comparable. Est-ce que l'on risque de mieux respirer dans ce Jardin des Plantes grâce à vous ?
Ah, j'espère bien, parce que...
Est-ce que l'air y sera plus pur ?
Ça, je ne garantis pas, mais on parle de l'air, enfin, vous allez voir des molécules d'oxygène qui... Enfin, c'est appel d'air.
Stanley Cambott, vous êtes architecte de formation, vous êtes fondateur d'Échelle Inconnue. Rouen est une ville dans laquelle vous vivez et vous travaillez sur la Seine depuis déjà de nombreuses années. Alors, à quelles questions avez-vous répondu pour ce travail qui vous a été commandé ?
Donc, on travaille sur la Seine depuis 2006 déjà, en mettant en place des rives, donc des marches pour vérifier ce qui est aujourd'hui un fleuve. Et l'idée qui nous tenait à cœur déjà depuis un moment, et qui a été, disons que le festival a été l'occasion de la reposer, était la question des couleurs du fleuve. Enfin, avec une idée assez simple, hein, c'est qu'à partir d'une question aussi simple que de quelle couleur est la Seine aujourd'hui, posée à des riverains, mais aussi à des professionnels du fleuve, à des gens qui travaillent, qui n'y travaillent plus, parce qu'ils ont été ou licenciés, ou ils participent à la disparition de l'industrie sur les bords de Seine, de quelle manière on pouvait établir une série de représentations agissantes à l'œuvre aujourd'hui autour d'un fleuve qui est devenu un enjeu urbain. Pas simplement à Rouen, mais enfin, c'est une réalité européenne, c'est que les fleuves européens sont devenus des enjeux urbains. C'est qu'à l'époque de l'Europe industrielle ou industrieuse, le fleuve est considéré grosso modo comme un égout à ciel ouvert, puisque les usines déversent. Il y a même des projets dans certaines villes d'occulter les fleuves, les couvrir.
Un peu moins,
mais il y a eu. il y a eu. Et aujourd'hui, depuis quelques années, de Budapest à Rouen, on voit des volontés de revalorisation du fleuve. C'est un seul coup, on se dit que c'est plutôt intéressant d'un point de vue urbain d'avoir un fleuve dans une ville. Et il y a des gestes qui se mettent en place ici, quelques gestes urbains qui sont véritablement des gestes symboliques. Il y a un enrobé rouge qui coule le long du fleuve et qui destine le fleuve à la promenade. Ce qui est assez surprenant, c'est que les idées qui président à l'aménagement des fleuves aujourd'hui sont dirigées par deux grandes idées. C'est loisir, cher loisir, la promenade dominicale, le sport et
l'environnement.
L'environnement, oui, à se demander si c'est pas l'environnement n'est pas un prétexte, et les questions immobilières, puisqu'une fenêtre sur un fleuve vaut plus cher aujourd'hui qu'une fenêtre sur une rue.
Alors qu'est-ce qui y manque ?
La question, c'est bien ça. Qu'est-ce qui y manque ? Ce qui y manque essentiellement, c'est les représentations. C'est aujourd'hui, on n'a pas de représentation. Des fleuves en particulier, moi je pourrais dire des villes en général, puisque c'est notre travail depuis maintenant plus de 12 ans, il n'y a pas de représentation agissante des fleuves. Et comme dans tous les projets urbains, on sait bien ce qu'on va mettre en place, on sait assez peu ce qu'on va voir disparaître. Donc l'idée des couleurs de la Seine, poser ça de manière très large comme un éventail, c'est aussi voir de quelle manière les gens se représentent un fleuve et comment ces différentes couleurs peuvent ramener aussi des éléments historiques, micro-historiques, qui appartenant à la grande histoire. De quelle manière un fleuve peut être rouge pour des auteurs comme Laïla Sebar, qui parle du massacre des Algériens en 61 à Paris, dont les cadavres dérivaient jusqu'à Rouen. De quelle manière elle peut être rouge des conflits sociaux encore aujourd'hui existants le long des berges de la Seine. Et donc ça, c'est un travail cartographique qu'on essaie de réaliser avec des syndicalistes en ce moment. De quelle manière elle peut être rouge, ou elle a été rouge, du vin d'Algérie qui était mélangé dans les cuves du chai à vin aujourd'hui démantelé. Voilà, donc là on est encore on se ménage toujours le temps maximum pour rencontrer les gens et travailler, donc on est encore dans le tambouillage de tout ça, de toutes ces paroles et comment on les assemble. Mais simplement par un camaillon on voit tout ce qu'on traverse d'un fleuve.
D'accord. Et vous avez interrogé physiquement ces gens dont vous parlez, c'est-à-dire ceux qui vivent près du fleuve, ceux qui y travaillent encore, ceux qui l'imaginent, et est-ce que vous avez interrogé les peintres?
Alors, on a interrogé physiquement donc des mariniers, toujours qui travaillent encore, mais il y en a de moins en moins, donc aussi ceux qui ne travaillent plus, des gens qui vivent au bord du fleuve, entre autres un historien qui vit dans un bateau, d'anciens dockers, des ouvriers, puisque c'est cette espèce réputée disparue, l'ouvrier tombe et disparaît, mais il se trouve qu'ici il y en a encore beaucoup qui travaillent toujours le long des berges, donc leurs paroles nous intéressaient. Et ce qui nous intéressait, nous, c'est notre mauvais esprit naturel, c'était aller rencontrer aussi ce qu'on appelle les peintres du dimanche ou les peintres amateurs, qui dans le cadre d'une biennale consacrée à l'impressionniste sont à peu près les seuls artistes aujourd'hui qui se revendiquent complètement, clairement, de l'héritage des impressionnistes.
Et alors, de quelle couleur alors voit-il la scène de la couleur impressionniste?
Alors, il la voit de manière très technique. Est-ce qu'elle est bleu pétrole? Est-ce qu'elle est, pour un peintre comme Kéméré, bleu Kéméré, puisque c'est une des couleurs qu'il utilise, qu'il fabrique lui-même, et donc qu'il utilise pour peindre le fleuve? Là, ce qui est surtout intéressant avec les peintres, c'est qu'ils constituent aussi une sorte de conservatoire des techniques, techniques qui ne sont plus du tout enseignées dans les écoles d'art, par exemple.
Mal, hein.
Et bien sûr, c'est même essentiel. Et après, c'est assez drôle de voir le dénigrement qui est partagé, hein, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire la haine de l'art contemporain pour ce type de pratique et la haine de ce type de pratique pour l'art contemporain. Or, nous, on connaît, parce qu'on est identifié dans la sphère de l'art contemporain, qui a été un peu le seul endroit où on pouvait faire les travaux tels qu'on imaginait les faire, les travaux d'architecture ou d'urbanisme. Et on connaît donc des peintres de frac, et aussi, ça c'est pour des raisons plus historiques et sociales, des peintres réputés amateurs,
du dimanche,
et qu'à qualité, au niveau technique, la différence est quand même parfois difficile à déterminer très clairement. Il y a véritablement une sorte d'équivalence technique en tout cas.
Vous êtes toujours contre les faiseurs de ville?
Oui, plus que jamais, oui. Si on nous enlève ça, on disparaît. Sinon, on redevient ce qu'on aurait dû être, c'est-à-dire architecte dans des cabinets avec une plaque en cuivre, répondant à des concours, au mieux pour faire l'architecture de papier glacé, et si possible en remportant quelques-uns.
Alors, vous avez une meilleure idée?
L'idée, c'est ce qu'on essaie de mettre à l'œuvre.
C'est la représentation.
C'est ce qu'on essaie de mettre avant tout. Mais simplement parce qu'on existe depuis trop peu de temps, nous sommes très jeunes, ça fait à peine 10 ans que nous travaillons dans un espace qui n'était absolument pas délimité, en tout cas dans les formations d'architectes. Donc ça fait à peine une dizaine d'années qu'on travaille. On a décidé de prendre aussi les questions dans l'ordre. Donc dans l'ordre, il y avait d'abord la question de sur quoi on travaille, et qu'en architecte, on travaille avant tout sur des représentations de la ville. On ne travaille pas sur la ville réelle, ce qu'ils disent mentent. On travaille avant tout sur des documents techniques, et parmi ces documents, il y a ce fameux plan de cadastre sur lequel, à un moment ou à un autre, on vient poser le projet, parfois le réfléchir même directement, hein, plan masse, sans vraiment se poser la question. En tout cas, les architectes se posent peu la question, et dans les écoles...
Non ?
Étant tellement minoritaire, on s'octroie le droit de ne pas être gentil.
C'est ça.
Et donc ce plan de cadastre, qui est quand même une invention de Napoléon pour calculer l'impôt, et on peut se poser des questions sur pourquoi on continue à utiliser ce plan, à réfléchir les projets aussi à partir de ce plan, à partir d'un moment, est-ce qu'on n'est pas en train de continuer à dessiner la ville de l'impôt plus qu'autre chose? Et nous, il nous semble que l'intérêt d'une ville, c'est sa dimension aussi conflictuelle et les différents conflits de représentation à l'œuvre. Donc le conflit des faiseurs de ville, donc quand je dis faiseurs de ville, je ratisse large,
hein,
architectes, urbanistes, sociologues, politiques, de plus en plus aujourd'hui police, voilà, qui dessinent et qui construisent la ville, ils ont leur représentation, il y a d'autres représentations à l'œuvre, mais qui, elles, ne sont pas émergentes. Il nous semble qu'à partir de ces vides représentatifs, on peut toucher... l'éternelle question, c'est comment ça se pense, la ville. Non, moi, je ne suis même pas sûr que ça arrive à se penser, la ville. Peut-être qu'on est pensé par la ville, ou la ville se pense toute seule, ou mangé par, ou la ville se pense toute seule. Mmh. Et donc, parmi les premiers travaux qu'on a fait, c'était aller voir ceux qui étaient absolument absents des cartes officielles, donc aller travailler avec des sans-abri, aller travailler avec Dizigan, pour voir ce que, depuis ces endroits-là, on voyait de la ville, et comment on pouvait fournir les cartes manquantes, à notre avis, de l'espace dans lequel on vit aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il y aura à voir de votre travail cet été?
Alors,
et où?
Alors, où? Sur les quais rive droite, sur le joli ruban rouge dont je vous parlais, aménagé pour les promenades dominicales en poussette et en vélo. Donc c'est comme, pas souvent, enfin assez régulièrement dans notre travail, une démarche quasi anti-spectaculaire, puisque ça sera des clous en inox qui ressemblent trait pour trait à des clous de passage cloutés, qui sont gravés de QR code, donc une sorte de code barre en deux dimensions, décodable avec un téléphone portable et qui donnera accès aux entretiens réalisés, au montage des entretiens réalisés avec les mariniers, les ouvriers, les anciens dockers et les riverains de la Seine.
Donc des clous parlants.
Des clous parlants et des clous donnant parfois aussi des images, des textes.
Et posés au sol.
Et ils sont plantés dans, véritablement comme des... C'est du piercing urbain. Mmh. Voilà, donc c'est une... C'est des objets assez légers, discrets, qui viennent se planter dans la ville et qui correspondent pour nous aussi à un vieux rêve dont on l'avait depuis longtemps. On faisait pas mal d'interventions urbaines avant l'arrivée du plan Vigipirate. Et qui est un de nos vieux rêves, c'était quand même comment on arrive à sous-titrer de l'espace urbain. C'est-à-dire comment on arrive à augmenter cet espace avec du sens, avec des histoires. Comment la parole, en effet, de gens du voyage ou de sans-abri, parole tue, peut émerger à un moment donné dans l'espace public. Et il y a 4 ans, un peu par hasard, dans le cadre d'un autre projet autour d'une ville disparue, une ville algérienne disparue, on a rencontré un chercheur à l'université qui nous a mis sur la piste de ces codes en nous expliquant qu'on pouvait relier de l'espace physique à de l'espace numérique, qu'on pouvait avoir accès via une sorte de code barre directement à des informations sonores, visuelles, et donc ça augmenter du coup, d'un seul coup, l'espace physique de sens, d'histoire, voilà.
Donc c'est l'interaction du numérique et du fleuve.
L'interaction du numérique et du fleuve, l'interaction du numérique et de la ville, c'est aussi parce que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, c'est qu'en effet, architectes et urbanistes, probablement un peu trop intéressés par le petit commerce des murs, ont tendance à croire que la ville, c'est encore des blocs et des rues. Il nous semble que nous, la ville, c'est aussi, aujourd'hui, une des grandes révolutions dans la ville, c'est la question du numérique. Comment le numérique, en particulier le numérique portable, enfin tous ces petits objets, ces petits téléphones qu'on trimballe tous sur soi, modifient complètement notre rapport à l'espace urbain. Il y a 10 ans, on pouvait pas, ou il y a un peu plus peut-être, on avait du mal à s'imaginer parlant à sa grand-mère en marchant dans la rue ou en allant faire ses courses. Aujourd'hui, il y a une véritable modification de l'espace urbain par ces nouvelles technologies et il est important de s'en emparer aujourd'hui avec des techniques libres comme celles qu'on utilise avant que certains opérateurs mettent en place, d'où l'intérêt de... C'est toujours le problème avec le numérique. Hein. Le problème du numérique, c'est trop tôt, trop tard. Donc, c'est pour ça qu'on est en test aussi. Là, c'est que en effet, c'est un peu tôt parce que la technologie n'est pas complètement démocratisée. C'est pour ça qu'on propose des prêts de téléphones portables pendant toute la durée de la manifestation. Donc des gens qui pourront avoir des téléphones portables avec la technologie 3G qui leur permettra d'accéder aux vidéos et aux contenus sonores. Mais il faut le faire maintenant puisque le temps que s'établissent les standards, s'il n'y a pas d'intervention faite avec des codes ouverts, libres, Orange aura vendu son flashcode. Thank you.
Olivier Darnay, merci d'être avec nous. Vous êtes plasticien et apiculteur, et bien connu des auditeurs de Vivre sa ville. Et vous êtes vous aussi un des artistes invités à Rouen Impressionné. Alors là, les chiffres que j'ai lus ne sont pas partout les mêmes. Vous y êtes installé avec 100 000 ou 200 000 abeilles, c'est ça ?
Oui, peu importe qu'on ait les chiffres, peu qu'on ait l'ivresse, mais on est, oui, à un peu plus de 200 000 abeilles.
Sur les deux rives ?
Sur les deux rives, oui. Répartis quasiment, équitablement, sur les deux rives de Rouen.
Alors avant de parler de Rouen, un petit mot quand même de votre histoire, puisqu'on vous trouve déjà sur Saint-Denis.
Saint-Denis, mais oui.
Saint-Denis, où les reines, vos reines à vous, sont aux côtés des reines de France et des rois
c'est
de France.
Vrai, c'est vrai. Et aussi à Londres en ce moment, dans la City, dans le quartier de la City.
Alors vous êtes aussi à Aubervilliers, à Roubaix ?
À Roubaix, il y a eu des expériences sur Grenoble. On entame à nouveau une expérience, une belle histoire avec Marseille, du côté de Marseille 2013, avec le continent européen et méditerranéen pour l'année prochaine.
Alors, Olivier Darnay, ce qui est parti d'une, on va dire, d'une disposition de votre part, une inclinaison, on va dire, poétique sur la perception de la ville, est devenu un système, peut-être que le mot est un peu fort, ou un moyen d'interroger les relations entre l'homme et son milieu, et la place du sauvage et la ville.
Et l'urbain, tout a démarré avec une expérience qui s'intitulait « L'erreur est urbaine ». En 2004, au moment où finalement je me rendais compte qu'il y avait un paradoxe troublant, mais que je n'arrive toujours pas à trouver joyeux, qui était de savoir finalement, de me rendre compte que les abeilles des villes pouvaient parfois produire 4 à 5 fois plus de miel que dans la majorité des régions rurales de France. Et on pourrait dire, voilà, c'est une belle histoire que d'imaginer que les abeilles des villes pourraient sauver celles des campagnes, mais en l'occurrence, bien entendu, que la Seine-Saint-Denis, là où je suis né, là où je travaille, là où le parti poétique que j'ai monté continue son ouvrage, ce n'est pas a priori une terre de miel. Mais elle le devient tout simplement parce que les terres de miel qui l'étaient jadis ne le sont plus. Et les abeilles, en disparaissant, font apparaître tout un tas de problèmes. Voilà. Et donc voilà effectivement ce qui fait qu'aujourd'hui, politiquement, économiquement, écologiquement et artistiquement, la question de cette pollinisation de la ville se pose en même temps que l'on pose des abeilles et des questions sur les trottoirs.
Elle se pose et elle pose des questions, elle ouvre des questions. Alors on en revient peut-être maintenant à Rouen, parce que vous avez depuis une première rencontre que nous avons eue ensemble il y a déjà quelques années, et justement à Saint-Denis, vous avez mis au point un pollinisateur urbain.
Mais le pollinisateur urbain, tout a démarré avec d'ailleurs la complicité d'Yves Clerget au Centre Pompidou. C'était en 2006. L'idée, c'était de faire en sorte qu'au lieu de simplement de poser, on pourrait dire presque simplement, une ruche sur un trottoir, ce qui était l'expérience du butineur urbain en 2004, le pollinisateur urbain, il se permettait d'aller un tout petit peu plus loin parce que au-delà de poser 80 000 abeilles sur un trottoir, on pouvait rentrer dans la ruche. Et ce qui était
alors,
joli...
Alors, quand même, première question, je vous arrête. Ouais. Il était autorisé à installer une ruche sur un trottoir ?
Il était autorisé, l'animal, parce qu'il s'était renseigné. Et non, j'étais juste allé voir du côté des textes de loi, justement, qui permettaient, qui faisaient en sorte qu'un préfet de police ne pouvait pas faire autrement que de m'autoriser à poser cette ruche sur le trottoir.
Et pourquoi ?
Et pourquoi ? Parce que, logiquement, on devrait avoir un arrêté préfectoral et municipal, peut-être suffisamment strict pour empêcher ce genre d'installation. Et ce qui est très joli, c'est qu'en ville rentre le code rural pour les abeilles. Et que finalement, vous pouvez installer une ruche partout, dans l'espace public, privé, etc., pour peu que vous installiez autour de votre ruche une haie vive ou sèche de 2 mètres de haut. Et le principe, c'est simplement de faire en sorte que ces abeilles soient finalement contraintes de passer au-dessus de vos têtes. À 2 mètres, a priori, il y a très peu de monde. Et donc, on se retrouve comme ça à pouvoir installer ces abeilles dans des dispositifs voilà, que je conçois depuis quelques années.
Et les premiers essais, avant de répondre à la question sur le pollinisateur urbain, les premiers essais avec des ruches urbaines, c'était où ?
C'était Place du Palais-Royal en 2004.
On se souvient, au moment de Quartier d'été.
Paris Quartier d'été, voilà. Il y a eu des expériences aussi à Fontenay-sous-Bois juste avant, l'année d'avant, où la Galerue, qui est une galerie pour l'art contemporain sur la rue, s'était transformée en galeruche. Et donc c'était une première fois que dans un centre-ville, on installait voilà, dans l'espace public une ressource sauvage de 80 millions d'années et qui posait juste la question de la possibilité de butiner le quartier que l'on habite.
Et ensuite de le consommer même.
Et de le manger.
Alors, de la ruche au pollinisateur urbain.
Et de la ruche jusqu'à la banque du miel, je dirais même.
Et, oui, et la banque que, du
voilà,
miel.
On est passé par, je dis on, donc, parce que voilà, aujourd'hui on est une petite équipe de quelques compagnons au Parti Poétique à travailler ensemble sur des objets qui posent effectivement des questions et qui démultiplient d'ailleurs la curiosité que l'on porte sur l'endroit que l'on a l'impression de connaître, qui s'appelle la ville et qui en fait révèle énormément d'invisibles et qui finalement sont matérialisés en l'occurrence par une abeille. C'est-à-dire que cet invisible de la ville qui laisse entendre qu'on est plutôt dans l'imbutinable de la ville à un moment, ces abeilles, elles en remplissent des pots de miel. Et donc, le pollinisateur urbain, pour revenir à cette installation...
D'abord, vous avez abandonné la ruche, là ?
Ah non, non, je suis non. complètement dans la ruche.
Vous êtes encore dans la ruche.
Ah, je suis toujours, c'est alors, terrible.
D'accord. Et la différence avec le pollinisateur urbain ?
C'est que on peut y faire entrer des humains.
Et ça se présente comment ?
Et ça change tout. En gros, le pollinisateur urbain, c'est un conteneur normalisé tel qu'on le rencontre sur le rail, sur des bateaux et dans des avions. Celui qui fait le tour du monde plusieurs fois par an et qui est rempli de tout un tas de choses. Et en l'occurrence, assez souvent chinoises, qui arrivent jusqu'en France.
Au Havre, souvent.
Au Havre, voilà. Mmh. Et d'ailleurs, les premiers que l'on a achetés venaient du Havre, effectivement, on les a achetés là-bas. Et très souvent, en fait, la marche du monde faisant, ils viennent de Chine et sans forcément retourner en Chine. Donc, j'en avais acheté trois, et puis on les a transformés en ruchers. Ils sont devenus habitats d'abeilles. Et du coup, pour un préfet de police aussi, c'est tout à fait possible et pas très compliqué de donner une autorisation de pose de containers dans l'espace public. Il est habitué à ça. À ceci près qu'ensuite, ce container abritait plusieurs centaines de milliers d'abeilles.
Oui, il y a un problème là quand même, non ?
Il y a une joie avant d'avoir un problème. Il y a un problème
si on a... Mais peut-être pas pour le préfet.
Mais le préfet n'était pas dupé. Non, mais on a en fait ce code rural qui nous permet de faire ça. Et on a surtout en fait finalement la démonstration que ces abeilles n'ont aucun intérêt à nous piquer et qu'elles ont bien beaucoup plus de choses à faire sur leur mission première, prioritaire et historique, qui est celle de la pollinisation. Et au-delà même de l'intérêt de pouvoir manger un pot de miel, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait vivre sans manger de miel, on aurait beaucoup de mal à vivre sans abeilles et sans pollinisation. Donc le plaisir de juste sournois mais sincère d'enfermer des humains dans une ruche, c'est d'abord aussi en grande partie de transformer cette peur en curiosité. C'est-à-dire qu'à un moment on se retrouve face à une abeille et si éventuellement on a peur d'elle, c'est bien peut-être parce qu'on est nourri de méconnaissance surtout. Et c'est cette peur qui est le résultat de la méconnaissance qui fait qu'on est a priori dans l'a priori, dans les a priori. Et puis en fait, avec son corps défendant, on voit très bien que finalement, elles ont très peu d'intérêt à nous piquer. Et on assiste à quelque chose qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir trop souvent, en tout cas en ville, c'est d'admirer de façon plus ou moins hypnotique le spectacle de la nature. Ce qu'on a à Rouen, c'est pas tant le pollinisateur que la banque du miel, qui est un projet qui a démarré en Seine-Saint-Denis dans le cadre d'Art Grandeur Nature en 2008 avec un prologue et qui posait la question effectivement du rapport de force et des doubles crises économiques et écologiques. Et cette banque du miel, effectivement, dans laquelle on entre, elle a un couloir central et qui permet surtout d'opérer des transferts de fonds. C'est-à-dire qu'une abeille à laquelle on est habitué opère des butinages. Et dans le mot butinage, on a un autre mot qui est butin. Elle transforme le butinage en butin, et transformant le butinage en butin, elle nous pose la question du partage de butin. Ce qui n'est pas forcément une coutume habituelle chez les humains.
Et c'est pas une vraie banque. Ou c'est une drôle de banque, on va dire.
Presque aussi drôle que les vrais, à ceci près qu'elle est au moins tout autant énigmatique, tout aussi opaque, parce que c'est un bâtiment imposant, noir, énigmatique, parce qu'il est juste indiqué sur son extérieur, banque. Donc en tout point, à cet endroit-là, elle est semblable à celle que l'on connaît. La différence ensuite, c'est qu'elle travaille sur le vivant, et qu'elle ne spécule pas sur les ressources, elle les fait fructifier, dans le sens où elle les transforme en fruits. Les banques des humains transforment assez peu en fruits ce qu'on y dépose. Et donc... ce qui se passe, c'est qu'on utilise, nous, aujourd'hui, là, l'abeille, et c'est ce qui m'amuse, mais c'est aussi ce qui est le plus passionnant dans cette expérience, comme un indicateur de richesse. En gros, une abeille qui va bien, c'est une abeille qui fait du miel. Aujourd'hui, les abeilles font du miel en ville parce qu'il leur est devenu quasiment impossible de le faire et de survivre à l'homme, finalement, parce qu'elles sont devenues malades de l'homme, dans des régions rurales où jadis elles le faisaient. Parce que, tout simplement, l'homme a inventé des principes magnifiques comme la monoculture, comme les herbicides, comme les pesticides, et qu'il a finalement transformé les campagnes de nos impressionnistes en campagne d'endroits qui aujourd'hui auraient certainement fait en sorte que les impressionnistes auraient fait du cubisme, quoi. C'est-à-dire que là où les impressionnistes partaient sur le motif avec une vingtaine de tubes, aujourd'hui ils pourraient en prendre que 5-6, parce que finalement un champ de colza, ça se peint avec deux couleurs.
Ah, vous voulez dire que les couleurs, y a moins de couleurs dans la nature qu'il n'y en avait au 19e siècle.
Mais promenez-vous, alors je me rappelle, j'ai un petit souvenir des campagnes du
19e
siècle.
Il me manque les bleuets. Les coquelicots sont revenus, mais il n'y a pas de bleuets. Il n'y a toujours pas de bleuets. Mais
il manque énormément de choses. Et il manque d'autant plus de choses que lorsqu'on s'intéresse simplement à la notion de mauvaise herbe, qui est d'ailleurs un drame, puisqu'en fait, il faudrait juste savoir que les mauvaises herbes ont un nom. Et dès que l'on apprend que les mauvaises herbes ont un nom, on se rend compte de la diversité de ce qui
pousse.
Elles
ont meilleure presse que par le passé.
Oui, c'est vrai, ça progresse.
Ça vient.
Mais évidemment, et là, en fait, on peut aussi donner la parole à un chercheur. On travaille depuis quelques temps avec le CNRS, avec un palynologue. On fait des analyses polliniques des différents miels que l'on produit entre la ville, les zones périurbaines et des zones de grande culture. Et aujourd'hui, il y a très peu d'endroits capables de fournir, comme à Saint-Denis par exemple, ou en Seine-Saint-Denis, plus de 250 pollens de fleurs différentes dans un seul échantillon de miel. Cette diversité-là, aujourd'hui, on ne la rencontre pas dans des campagnes où, évidemment, l'homme essaye de rentabiliser à l'hectare sur des logiques d'agriculture intensive, qui font que finalement, c'est la spéculation sur le vivant ou sur l'agriculture qui cherche à faire en sorte que finalement, l'argent fabrique de la mort. Il y a une éradication, en fait, de la diversité du vivant qui fait que c'est finalement ce qui me motive à mettre en place un projet comme la Banque du Miel.
Alors racontez-nous où vous vous êtes installé à Rouen.
À Rouen, on s'est installé évidemment proche de clochers. C'est difficile à Rouen de ne pas s'installer proche d'un clocher. Mais disons qu'on a sur les deux rives...
Mais il y a clocher et clocher.
Ah oui, c'est sûr. Et il y a aussi miel et miel. Mais on a en tout cas une installation de la Banque du Miel sur la place Barthélemy face à l'église Saint-Maclou. Avec donc quelque chose qui évidemment fait un peu rupture avec le contexte historique et patrimonial de la ville.
Mmh. Qui est très marqué, hein, une ville très forte. Hein,
bien sûr, ah oui, avec un caractère, ouais, son tempérament. Et effectivement, une installation énigmatique, mais qui ouvre ses portes. C'est-à-dire que cette Banque du Miel, elle a surtout pour grand intérêt d'organiser des visites bancaires, quoi, des visites de banque. Et plutôt que d'utiliser ou de travailler avec des médiateurs de la ville en art contemporain, il nous a semblé intéressant d'inviter les apiculteurs finalement à prendre la parole à l'intérieur de cette banque. C'est-à-dire que j'ai en fait le grand plaisir à imaginer que ça sera l'occasion quand même pour eux de prendre la parole, de se mettre en relation immédiate avec, on va dire, la société civile qui est en fait consternée sur la disparition des abeilles, mais qui ne peut pas y faire grand-chose au final. Et que finalement, dans la solitude de leur pratique, ces apiculteurs qui sont plus ou moins ours, les uns autant que les autres, on se retrouve quand même à des conversations là, qui permettraient peut-être de se poser de nouvelles questions sur ce qui fait disparaître les abeilles et la façon qu'on a du coup de se poser les bonnes questions au bon endroit.
Donc il y a aussi la mémoire de ces activités alors qu'ils sont réactivés, c'est ça ?
Mais on a, on va dire, une ville qui héberge des abeilles parce que finalement la campagne a beaucoup de difficultés aujourd'hui à l'accueillir dans de bonnes conditions. On a aussi un métier qui évolue.
Je suis sûre que ceux qui nous écoutent ne comprennent pas exactement ce que vous dites.
Ah, alors ça serait bien triste.
Non, c'est pas ça, mais je veux dire, comment est-ce que pour une abeille, on fait un miel de meilleure qualité en ville qu'à la campagne ?
Je parlais pas de qualité, je parlais de diversité.
Et de quantité en fait, aussi.
Ouais. C'est-à-dire qu'une abeille qui va bien, c'est une abeille qui fait du miel. Une abeille qui va mal, c'est une abeille qui n'a pas le temps de vivre, même jusqu'à pouvoir faire un gramme de miel. C'est-à-dire que, quand je parlais tout à l'heure de diversité et de complexité aromatique, de celle que l'on peut trouver dans un pot de miel urbain, c'est tout simplement que, pour une abeille en ville, aujourd'hui, on se retrouve avec une chose formidable, c'est qu'on a en fait une succession d'anecdotes de butinage qui fait que la ville, entre une DDE qui plante des tilleuls, des acacias, des marronniers le long des boulevards, les jardins dirigés par les directions des espaces verts, les bacs riviera au bord des fenêtres, les appuis de les jardins derrière les immeubles, les délaissés urbains, les jardins ouvriers, on a finalement une succession d'anecdotes de butinage qui est gigantesque. Et un champ de possible qui est énorme, avec un calendrier qui est tout à fait étendu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où une fois que le champ de colza ou le maïs a terminé sa floraison, si vous laissez vos abeilles sur place, elles meurent.
Olivier Darnay, c'est ce travail que vous faites, je veux dire, ça ouvre sur quel type de questions et de réponses d'ailleurs ?
Eh bien, je pense que ça pose la question du milieu, beaucoup. C'est-à-dire que ça nous oblige un peu à regarder peut-être avec une objectivité d'abeille qui se pose la question de savoir si la ville est butinable sous l'obligation qu'elle a d'y survivre, quoi.
Mais vous en avez la preuve aujourd'hui.
Oui.
Qu'elle est butinable.
Elle est butinable d'abord parce qu'effectivement le miel existe, parce qu'il a il a bon goût et qu'on y trouve des choses qu'on trouvait jadis dans les campagnes et qu'on a beaucoup de mal à y trouver. Ouais. Donc effectivement qu'elle est butinable. Mais ce qui est partageable aussi, c'est le point de vue que l'on a sur le monde dans lequel on existe et dans lequel on tente d'exister.
Mais quel croisement possible entre l'abeille et l'homme en ville?
On pourrait même dire entre l'abeille et le vivant. Et entre l'abeille et entre l'homme et la nature, la relation conflictuelle qu'il a entre la nature, elle est juste incroyable. La façon qu'il a de se poser à côté de la nature, au lieu de finalement de considérer que, prétentieux qu'il est, bien entendu qu'il en fait partie, fait qu'à un moment, on a le sentiment qu'il faut tenter de remettre les pendules à l'heure en essayant de bouleverser des choses. Bien entendu que la Banque du Miel, aujourd'hui, elle émet des messages comme « on ne prête qu'aux ruches ». Parce que pour nous, il est important non pas de faire en sorte que cette installation reste énigmatique, il faut faire en sorte, et je pense que c'est aussi une des missions de l'art contemporain, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas uniquement de faire en sorte que ça ne concerne qu'un public averti, convaincu et converti. Il s'agirait de faire en sorte que peut-être que ce soit l'art et la manière de poser des questions et les démultiplier. Donc c'est pour ça que je me dis que cette pollinisation de la ville, la façon qu'on a d'inviter du vivant dans un festival d'art contemporain, c'est une façon de démultiplier le champ des questions. Je crois que l'art contemporain doit particulièrement servir à ça, une sorte de démultiplication du réel, une façon de lire le quotidien ou de bouleverser les champs de vision. Si vous voulez, bon, moi ce qui m'a stimulé dans cette histoire, c'était on pensait que ça allait finalement concerner une cinquantaine de personnes. Bon, au début, cette banque du miel... Au tout début, quand on a démarré il y a 2 ans.
Vous parlez de quel lieu, là, de la banque?
Là, je parle de la grandeur nature, en Seine-Saint-Denis, et je parle aussi de ce qu'on a fait à Grenoble l'année dernière, avec le théâtre de l'Hexagone, au Mélan, et dans le cadre des rencontres-vie. On a lancé cette banque du miel avec l'idée de faire en sorte, non pas d'avoir des actionnaires de cette banque, mais plutôt de regrouper des personnes qui avait envie plutôt d'être sociétaire de la Banque du Miel. Et d'une certaine façon, lorsque l'apiculteur, lui, a pour habitude et pour obligation même de faire du miel pour le transformer en argent, pour ensuite essayer de nourrir sa famille, moi j'ai essayé de faire l'inverse. Je me suis dit, mais est-ce qu'on est en mesure de transformer de l'argent en miel? Est-ce que l'on peut transformer du butin en butin? Et que se passe-t-il finalement si on investit 10 euros dans une ruche, en quoi les abeilles transforment cet argent?
Mais vous voulez apporter la preuve que l'espace dans lequel nous vivons ensemble est notre bien commun, c'est ça?
Il y a un bien commun, mais disons que la ville n'est pas une ruche. Et nous ne sommes pas des abeilles. Mais en même temps, la ville renseigne, et, enfin disons que la ruche plutôt, enseigne et renseigne la ville. Et qu'on a du coup quand même, heureusement, que nous ne sommes pas des abeilles, parce que d'une certaine façon, ce n'est pas du tout enviable, la vie d'une abeille. C'est-à-dire que l'individu n'existe pas à l'intérieur de cette collectivité.
Il y a trop de chefs aussi, non?
Tout le monde est un peu chef à un moment, et puis c'est pas complètement pyramidal, ça c'est intéressant, il y a des semblants de démocratie, mais ça fonctionne pas toujours. Disons qu'en tout cas, c'est tellement opérationnel que c'en est inquiétant. C'est-à-dire que la ville, comme la ruche est pensée, c'est de la sécurité, du confort, de la production surtout.
Et de la productivité.
Et de la productivité.
De la rentabilité, oui.
Et il lui manque énormément de choses pour être agréable, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si la ville ne devait être que sécurité, production et travail, il lui manquerait peut-être beaucoup d'essentiel.
Olivier Darnay, qui va surveiller vos ruches pendant les 2 mois d'été? Vous restez combien de temps à Rouen, vous?
Jusqu'au mois de septembre. On organise un partage de butin le 6 septembre.
D'accord.
Qui va veiller sur ces abeilles? D'abord, les éléments, le temps qu'il fera. Et puis, non, heureusement, on a la complicité des apiculteurs, de la société romande d'apiculture, normande, pardon. Romande, c'était en Suisse, le mois dernier. Et puis, voilà, des apiculteurs qui ont les clés de la banque. Et aussi les clés du coffre, on a une chambre forte avec un coffre où on stocke les butins d'abeilles et les butins d'humains avec de l'argent véritable. Et ce sont eux qui vont être les grands organisateurs, les grands argentiers de cette expérience.
Et les gardiens.
Et les gardiens du coffre.
Alors vous savez, on a un peu posé la question à tout le monde, mais de votre regard à vous, de quelle couleur est la Seine, Armand?
Ah, peut-être verte, peut-être grise, voilà. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je me suis plus intéressé au ciel qu'à l'eau avec ces abeilles. Mais
Ah oui, parce que vous parlez de cultiver le ciel.
Ouais. Mmh. Oui, c'est vrai qu'on est dans le flux, mais en ce moment je suis beaucoup plus dans le flux aérien que dans le flux fluvial.
Mmh. Antonin Gracien, vous êtes avec nous?
Oui, tout à fait.
Oui, bonjour. Vous êtes Rouennais.
Oui. amateur d'art et votre fonction est vous êtes agent d'assureur. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est la nouvelle physionomie de votre ville de Rouen depuis que Rouen impressionné s'y est installé?
Elle change quoi en fait, parce que Rouen, il y a deux zones sur Rouen, il y avait cette rive droite qui est le corps historique de Rouen avec la cathédrale, le palais de justice, la place du Vieux Marché. Et puis tous ces quartiers commerçants, et on avait aussi la rive gauche, qui est un quartier plus industriel, plus populaire. Et depuis de nombreuses années, on s'est un peu séparé de justement la scène que vous parliez il y a quelques instants. Et donc là, on se rapproche de cette scène, on se réapproprie les quartiers proches de la scène. Et donc dans le cadre de Rouen impressionné, il y a le travail d'Olivier Darnay, puis il y a aussi le travail de l'artiste belge Arnaud Kins, qui est très visible et qui fait beaucoup parler de Rouen parce qu'il a transformé le pont Voile-Dieu en un formidable
jardin suspendu, c'est ça. Donc vous confirmez, enfin vous dites que Rouen c'était vraiment deux rives séparées par la Seine et par les mentalités, c'est ça?
Oui, il y avait vraiment le...
Une rupture?
Oui, on habitait la rive droite ou on habitait la rive gauche, quoi, en fait. On était vraiment, il y avait des ponts, mais c'était pas des passerelles, quoi, en fait. Il y avait pas vraiment d'échange, très clairement. Et c'est vrai que quand il a été pris le parti pris lors de la reconstruction de Rouen après la Seconde Guerre mondiale, on a surélevé, pour éviter des crues aux Rouennais, on a surélevé les quais. Ce qui fait que ça nous a un petit peu éloigné de la Seine et peut-être aussi un petit peu éloigné de cette proximité qu'on doit avoir d'une rive à l'autre, quoi, en fait.
Antoine Gracien, est-ce que cet événement artistique, à la fois d'une culture traditionnelle, l'impressionnisme, mais aussi l'art contemporain, est en mesure, et je poserai aussi la question à Olivier Darnay, est en mesure de rapprocher les deux rives, honnêtement? Est-ce que, comment vous sentez quand même prendre l'événement?
Moi, je pense qu'il prend positivement. J'ai eu l'occasion de voir le travail d'Arne Quince et puis de l'artiste japonaise Hirei Kawa qui a investi le jardin des plantes. C'est à chaque fois un enthousiasme, quoi, en fait, de tous les Rouennais, qu'on soit jeune ou moins jeune, en famille ou seul,
et qu'on soit d'une rive ou d'une autre.
Franchement, je pense que là il y a vraiment un échange, quoi, en fait, d'où on vient. Et sur le travail d'Arne Quince, Camille, son œuvre.
Alors, décrivez un peu ce pont. Le pont existe.
C'est un pont Voile-Dieu qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour ma part comme ça, et qui en a fait un attrait artistique, quoi, en fait. Il l'a complètement redessiné, il l'a repensé, et il l'a mis avec des centaines de tasseaux de bois, soit de couleur naturelle, soit de couleur orangée fluo. Mais il en a fait un jardin suspendu, donc qui porte interrogation, qui porte, qui intrigue. Et donc ça donne des lieux d'échange sous ce jardin suspendu entre les différents Rouennais. Et ça devient un vrai lieu d'échange, de culture. Et puis ça nous permet de redécouvrir et de voir, nous Rouennais, aussi aux visiteurs, des monuments de notre ville qu'on ne voyait pas ainsi, quoi, en fait.
D'accord, alors lieu d'échange et aussi de polémique, hein, parce que comme toujours avec l'art contemporain, c'est j'aime ou j'aime pas.
Oui, mais je pense qu'Olivier Darnay aussi en a peut-être fait les frais, mais vous savez, en fait, les impressionnistes, Pissarro a fait partie du Salon des Refusés en 1863.
Oui, ils avaient mauvaise presse.
Voilà, et puis Buren, quand en 1986, il investit le Palais Royal. Mais il était fort décrié à l'époque, quoi, en fait. Aujourd'hui, on admire son travail. Donc, je ne sais pas si c'est un mal nécessaire pour un artiste d'être décrié, mais c'est souvent le cas, quoi, surtout dans l'art contemporain. Et puis, je pense que c'est pas très grave. Il faut laisser le temps aussi à tout le monde d'apprécier les choses. Il y a des choses qui, pour moi, sont plus difficiles dans Rouen impressionné. Et puis, il y a des choses que tout de suite, j'ai adhéré.
Mais vous dites que ça fait du bien à la ville, c'est ça? Ça secoue dans le bon sens?
Ça fait, j'ai l'impression d'être dans une ville qui innove, qui ose, qui va de l'avant, quoi, qui malgré les difficultés, dit la culture c'est important et on investit dans la culture parce que c'est essentiel à notre vie, à notre essence.
Antoine Gracien, comment vont les abeilles urbaines d'Olivier Darnay?
Moi, j'espère qu'elles vont bien. Elles vont bien. On va suivre ça. Moi, j'ai des enfants qui sont admiratifs et qui ont hâte d'être déjà le 6 septembre pour pouvoir recueillir et prendre.
Ah, c'est une question de gourmandise.
Ah, pour mes enfants. Oui, bah, il faut le voir à tous les niveaux. Il y a ça. Moi, ce qui m'intéressait dans le travail d'Olivier Darnay, c'était que ça posait plusieurs questions, notamment politiques, sur le travail. Il n'y a pas que la finalité, la rentabilité comme finalité dans le travail. Et puis sur le milieu, ce que je vous entendais dire tout à l'heure, c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Et puis pour moi, ça doit être aussi un projet éducatif. Je ne sais pas s'il le voit comme ça, mais moi, je le vois aussi comme un projet éducatif.
Et c'est bien d'avoir sollicité aussi les apiculteurs de la région.
Ah bah c'est bien que...
Dans les ruches sont un peu en berne quand même à la campagne.
Hein. Oui, c'est très difficile. Mmh. C'est très difficile. Et donc c'est bien, et puis c'est bien que tout le monde soit investi, quoi, en fait, par ce formidable festival.
Olivier Darnay, cet événement artistique est en mesure de rapprocher les deux rives, vous diriez?
Mais
Un truc en plus, enfin. Voilà.
Non, mais ça serait intéressant peut-être de changer le lit du fleuve, oui, effectivement, de déplacer les frontières. Mais on a des frontières psychologiques entre ces deux rives,
je pense. Mentalités, oui.
Oui, puis historiques, et puis peut-être sociales aussi. Et peut-être aussi que ceux qui sont rive gauche ont envie de rester rive gauche et ne se verraient pas habiter rive droite. Et de même que ceux qui sont rive droite. Et d'une certaine façon, c'est toujours.
Alors la rive droite, c'est la rive bourgeoise, non? C'est l'inverse?
Oui, c'est ce que
d'accord,
je crois. Oui,
d'accord.
Oui. Mais on a la bourgeoisie que l'on peut. Et puis, d'une certaine façon, c'est un résultat politique, voilà, humain. Je pense pas qu'il faille forcément voir le fleuve comme une frontière. De toute façon, bon, moi j'ai la chance de travailler avec un animal qui ne connaît pas les frontières. Ça traverse tout, une abeille, quasiment tout. Et donc, bon, c'est peut-être lui donner trop d'importance à cette manifestation Rouen impressionnée que d'imaginer qu'uniquement l'art pourrait relier.
On n'a pas dit ça. Ouais. On a dit rapprocher quand même. Ouais. Hein.
Ah, c'est une belle occasion de traverser un fleuve, oui.
Oui, puis de permettre d'échanger avec les autres et de débattre.
Oui, bien sûr.
Mm-hmm. Antoine Gracien, vous me parliez aussi d'une plage qui est sous le pont.
Oui, tout à fait.
C'est quand même, avant de se quitter, c'est quand même le dernier détail festif et estival.
Ben voilà, pour la deuxième année consécutive, les Rouennais vont bénéficier d'une plage qui s'appelle Rouen-sur-Mer, et qui est une très belle plage qui permet surtout aux Rouennais qui ne peuvent pas partir en vacances de profiter un peu de bon temps. Et elle est située vraiment en dessous l'œuvre d'Arne Quinz. Donc ils profiteront à la fois du festival, de son œuvre, de ce jardin suspendu et prendre un peu de bon temps.
Quoi. Est-ce que les places sont chères comme à Paris-Plage?
Oui,
il faut mettre le réveil à 6h du matin?
Oui, il faut mieux venir le matin. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, c'est un réel grand succès. Quoi, en fait.
Merci à vous deux de votre participation.
Merci.
Rouen et la Normandie sont donc tout l'été aux couleurs de l'impressionnisme et de l'art contemporain. Toute info sur l'événement sur notre site franceculture.com, vivre sa ville. Dimanche prochain, 7h05, dimanche d'été à Chantilly et sur le Pont Neuf. Vivre sa ville, une émission de Claire Martin-Dugard, Woumine, Véronique Villa et Sylvie Andreu.